dossier de votre magazine Montpellier Agglo numéro 14 des mois de juillet et août 2013 est consacré à l'artisanat Fabricat à Montpellier. Et si vous profitiez de l'été pour redécouvrir des produits Fabricat à Montpellier, prendre le temps de mieux connaître les spécialités et les richesses du territoire, confiseurs, chocolatiers, luthiers, créateurs, c'est un ensemble de savoir-faire qui s'étend ici à Montpellier et dans l'agglomération. Des produits faits main, aux couleurs de la capitale régionale, qui contribuent à la renommée de ces artisans, parfois même mondialement. Éveillez vos sens à ces traditions perpétuées depuis des générations qui font l'identité du territoire et dynamisent l'activité locale. Rencontre avec les hommes et les femmes à l'origine de ces créations chargées d'histoire.
Tradition, un riche passé montpelliérain. Avec l'un des plus grands vignobles du monde en superficie et en production, la plus vieille faculté de médecine du monde occidental et le plus ancien jardin botanique de France, Montpellier a hérité de traditions historiques, témoignant d'un passé riche et prestigieux. Au cours de son histoire, la cité, qui a fêté son millénaire en 1985, a été à la pointe dans plusieurs domaines et savoir-faire artisanaux qui se sont développés en même temps que l'influence de la ville grandissait.
Dès sa fondation, Montpellier a été une ville de commerce, faite de mouvements où les artisans ont su trouver une place de choix au fil des âges, explique Roland Andriani, professeur émérite de l'université Paul Valéry. À partir du XIIIe siècle, autour de la médecine et des apothicaires, de la faïence dès le XVe siècle, puis de la viticulture au XIXe siècle, de multiples savoir-faire se sont développés à des époques différentes et ont contribué au rayonnement de la ville. La poterie montpelliéraine, dite du Vieux Montpellier, a par exemple connu son apogée au XVIIIe siècle, lorsque la fabrique fondée par Jacques Olivier est devenue Manufacture Royale. La vigne a également connu son âge d'or avant l'épidémie du phylloxéra au milieu du XIXe siècle, qui a stoppé brusquement l'essor viticole de Montpellier. Aujourd'hui, certains viticulteurs bénéficient du label AOC Coteaux du Languedoc Grès de Montpellier, une distinction qui souligne l'excellence de leur cru et la qualité d'une terre travaillée depuis plusieurs siècles.
Des traditions oubliées. Avec la porte de la Blanquerie ou le quai des Tanneurs, Montpellier foisonne de lieux témoins de ses activités anciennes, dont certaines sont tombées dans l'oubli, comme la tradition drapière. Roland Andriani précise, jusqu'au XIXe siècle, il existait une industrie textile et de fabrication de draps de laine très importante, ainsi que des activités liées, comme la teinture ou la tannerie, dans la partie nord de l'Écusson et autour du Verdençon. Les drapiers utilisaient la cochenille, un insecte vivant dans les chênes kermès, pour produire une teinte rouge écarlate servant à teindre les draps. D'autres savoir-faire sont actuellement en voie de disparition. Alors qu'au début du XXe siècle, 14 moulins étaient implantés à proximité du Lez, aujourd'hui, le moulin de Sauret, dans le quartier des Aubes à Montpellier, est le dernier moulin encore en activité. Aujourd'hui, certaines traditions se perpétuent et de nouveaux savoir-faire, importés récemment, contribuent à la réputation de Montpellier.
Et sachez que l'Office de tourisme de Montpellier propose une visite estivale, centre historique La Grande Boucle. Plus de renseignements sur le site ot-montpellier.fr. Gastronomie des gourmandises chargées d'histoire. Le territoire de l'agglomération est une mosaïque de savoir-faire gastronomique. Des spécialités centenaires, mais aussi des produits plus récents, nés de l'imagination des artisans locaux, inspirés par la riche histoire de Montpellier. Autant de plaisirs gourmands à découvrir près de chez vous.
Les grisettes, la spécialité de Montpellier. Elles ont traversé les siècles sans prendre une seule ride. Ces petites billes noires, de la taille d'un petit pois, existent depuis le Moyen-Âge. C'est à l'extrême nord de l'agglomération que sont fabriquées aujourd'hui, à l'abri des regards indiscrets, les célèbres grisettes de Montpellier. Les ruchers de la Hacienda, dirigés par Raymond Muller, est la seule entreprise à fabriquer ces bonbons plusieurs fois centenaires. C'est par hasard, en 1967, que j'ai trouvé la recette des grisettes dans un vieux grenier. Elle était inscrite sur un parchemin appartenant à un ancien pâtissier, explique Raymond Muller. Il met ensuite à profit ses compétences d'ingénieur agronome pour redonner vie à cette spécialité oubliée. Aujourd'hui, plus de 15 tonnes de grisettes sont écoulées par an. Elles sont devenues la spécialité la plus connue de Montpellier, insiste Raymond Muller. Ce petit bonbon est essentiellement composé de miel et de réglisse, deux ingrédients utilisés au Moyen-Âge par les apothicaires pour leurs vertus thérapeutiques. La légende raconte qu'à l'époque, des cas d'hypertension étaient traités en consommant des grisettes. Plus d'informations sur le site les-grisettes-de-montpellier.fr.
Et puis quelques petits conseils culinaires. Plus que de simples confiseries, les grisettes de Montpellier peuvent être utilisées dans de nombreuses recettes, comme une panna cotta ou une ganache qui viendra garnir l'intérieur des macarons. Pour les amateurs de réglisse, remplacez le sucre de votre café par une grisette de Montpellier.
Le pavé Saint-Roch de chez Pinto. Répondant au nom du saint patron de la ville de Montpellier, le pavé Saint-Roch est un moelleux d'amande mêlé à des écorces d'orange confites cacaotées, complétées par un soupçon d'épices. C'est Gérard Pinto, le propriétaire de l'épicerie fine du même nom, fondée en 1957, qui a créé de toutes pièces, il y a 6 ans à peine, cette friandise désormais très prisée par les habitants, mais aussi par les touristes de passage. La maison Pinto propose également le délice des Trois Grâces, un chocolat noir aux saveurs de pain d'épices. Épicerie Pinto, 14 rue de l'Argenterie Montpellier, téléphone 04 67 60 57 65, 04 67 60 57 65.
6 chocolatiers ont donné naissance à l'écusson. Artisan chocolatier est un métier qui exige de la précision et une bonne touche de créativité. Toujours à l'affût des dernières tendances, ces artisans de l'agglomération se sont largement inspirés de l'histoire locale pour mettre au point des créations chocolatières telles que l'écusson de Montpellier. On le reconnaît facilement grâce aux armoiries de la ville, représentant Notre-Dame des Tables, déposées sur sa partie supérieure. L'histoire de l'écusson démarre en 1985, lorsque Georges Frêche, le maire de la ville à l'époque, incite les artisans locaux à inventer une spécialité à l'occasion du millénaire de Montpellier. Parguel, Henri, Scheller, Michel, Auriol et Valgallier, 6 artisans pâtissiers, se portent volontaires. Au terme de nombreuses discussions, ils optent finalement pour un chocolat et élaborent l'actuelle recette de l'écusson de Montpellier. Enrobé de chocolat blanc, il se compose d'une ganache au grand marnier, mélangée à une crème d'amande et saupoudrée d'orange hachée. En 2005, pour ses 20 ans, nous avons revisité l'écusson en proposant une variante enrobée de chocolat noir, explique Catherine Valgallier, fille de Georges Valgallier, l'un des pères de l'écusson, à qui elle a succédé en 1998. Aujourd'hui, ce chocolat s'impose comme l'une des spécialités de Montpellier. Les chocolateries Valgallier et Augier Parguel continuent de régaler les amateurs de chocolat avec cette création gourmande. Pâtisserie-chocolaterie Valgallier, 18 rue du Faubourg Saint-Jaume, Montpellier. Téléphone 04 67 63 30 61, 04 67 63 30 61.
Le chocolat du Saint-Patron Montpelliérain. Saint-Roch est à nouveau à l'honneur, mais cette fois-ci dans une version chocolatée surmontée d'un imprimé représentant une coquille Saint-Jacques, en référence au pèlerinage du Saint-Patron Montpelliérain jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Confectionné exclusivement par mes soins, le Saint-Roch associe parfaitement la saveur du gingembre confit à celle des pulpes d'orange sanguine, ainsi qu'une ganache composée d'un chocolat originaire de Madagascar, explique Thierry Papereux. Un produit aux accents exotiques qui est la marque de fabrique de la maison Papereux depuis son arrivée à Montpellier il y a 7 ans. Chocolat Thierry Papereux, 8 rue Saint-Paul à Montpellier, téléphone 04 67 63 90 64, 04 67 63 90 64.
Et puis un CD gourmand dédié au Festival de Radio France. Depuis près de 27 ans, le Diamant Noir est une adresse incontournable pour les plus gourmands. Dans son atelier, visible depuis la boutique par les visiteurs, Rodolphe Bascou fabrique ses délices et notamment un CD tout en chocolat à l'effigie de l'Arc de Triomphe du Pérou, surnommé Mélodie de Montpellier. Un clin d'œil pour le créateur au Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon, véritable institution qui chaque année en juillet programme plus de 200 manifestations musicales à Montpellier et dans toute la région. Le Diamant Noir, 25 rue Saint-Guilhem à Montpellier. Le téléphone 04 67 60 44 85, 04 67 60 44 85.
Dernière gourmandise, les pépites de Saint-Jean-de-Védas. On les confondrait presque avec de véritables pépites d'or. Bien moins précieuses, mais plus savoureuses, les pépites de Saint-Jean-de-Védas sont une spécialité lancée en 2007 par la chocolaterie du Blason. Bernard Manguin, artisan chocolatier et propriétaire des lieux depuis 2006, souhaitait créer une spécialité unique qui porte le nom du village de Saint-Jean-de-Védas. Un pari réussi puisque cette création chocolatée connaît un véritable succès. Composée à partir de produits haut de gamme, comme des amandes de Valencia et des noisettes du Piémont, elles sont enrobées de chocolat noir pour la version cuivrée et de chocolat au lait pour la déclinaison dorée. La chocolaterie du Blason, 1 bis rue de l'Ortet, Saint-Jean-de-Védas, téléphone 04 67 99 06 61, 04 67 99 06 61.
Montpellier, capitale de la lutherie. En moins de 30 ans, de nombreux ateliers de luthiers ont été créés dans le quartier Sainte-Anne à Montpellier et dans le reste de l'agglomération. Reconnus internationalement pour la qualité et l'excellence de leurs instruments, à cordes pincées ou frottées, ces artisans apportent au territoire une renommée unique en la matière, découverte de 3 professionnels issus de ce monde de précision et de patience.
Wolfram Neureiter, luthier à Montpellier depuis 19 ans. C'est dans son atelier du quartier Sainte-Anne, avec ses pierres apparentes, ses poutres traversantes et sa lumière tamisée, que Wolfram Neureiter façonne au quotidien alto, violon et violoncelle. D'origine allemande et diplômé de la Newark School of Violin Making en Angleterre, il arrive à Montpellier en 1994 pour assister Frédéric Chaudière, l'un des plus anciens luthiers installés en ville. Depuis 12 ans, Wolfram Neureiter vole de ses propres ailes. Sur son établi, gouges, rabots et ciseaux servent à tailler les différents bois qu'il utilise pour fabriquer ses instruments. Après avoir défini le plan de construction, vient l'étape du découpage, puis celle de la sculpture, de l'assemblage, du vernissage et enfin la mise en place des cordes. Dans notre métier, dit-il, nous devons maîtriser de nombreux savoir-faire, comme l'ébénisterie, la sculpture, mais aussi la peinture et posséder quelques notions de musique. Loin du rythme d'une fabrique industrielle, il donne vie chaque année à quelques instruments finement travaillés. De 6 semaines pour un violon jusqu'à 2 mois pour une pièce plus imposante comme un violoncelle, estime-t-il. L'Allemagne, la Corée, le Japon, mais aussi la Chine, l'essentiel de ses créations prennent la direction de l'étranger et contribuent ainsi à assurer la notoriété des ateliers de fabrication montpelliérains. Wolfram Neureiter, 8 rue du Bail, Montpellier, téléphone 04 67 60 51 36. 04 67 60 51 36. Et aussi sur le site internet neureiter-luthier.com.
Découvrir l'art de la lutherie. De septembre à juin, l'association Transart, créée en 1996 par plusieurs luthiers, organise une série de concerts, paroles d'instruments, des rendez-vous d'exception à l'intérieur de l'hôtel Magnol, situé au cœur du quartier Sainte-Anne à Montpellier. Retrouvez la programmation de la saison 2013-2014 de Transart sur trans-art.tv.
Le biblos, l'instrument insolite de Pierre-Marie Châteauneuf. Un mélange entre l'oud oriental et la guitare. C'est ainsi que Pierre-Marie Châteauneuf définit le biblos, une de ses créations qui a reçu en 2010 la bourse de l'innovation décernée par les internationales de la guitare à Montpellier. La prise en main de l'oud est assez délicate et les repères de jeu sont totalement différents de ceux que l'on retrouve sur une guitare. Le biblos permet aux guitaristes d'accéder à des sonorités orientales tout en conservant le confort de jeu d'une guitare classique, ajoute-t-il. Après avoir fait ses classes auprès d'un luthier confirmé de la région, c'est en 2006 que Pierre-Marie Châteauneuf fait ses débuts en créant PMC Guitare. « J'ai eu ma première guitare vers 15 ans, qui est très vite tombée en panne. J'étais déjà un peu bricoleur et j'aimais travailler le bois. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la lutherie », raconte-t-il. Dans son atelier de Montferrier-sur-Lèze, il fabrique de manière artisanale des guitares acoustiques et électriques sur mesure et personnalisables. Le luthier de 34 ans intervient régulièrement dans des collèges de l'agglomération pour animer des ateliers d'initiation à la lutherie et faire naître de nouvelles vocations. PMC Guitare, Montferrier-sur-Lèze, téléphone 04 67 34 05 35, 04 67 34 05 35, téléphone portable 06 70 25 16 49. 06 70 25 16 49.
271, c'est le nombre de clavecins signés Martine Argeliès et présent aux quatre coins du monde. Avec quatre clavecins à la Cité de la Musique de Paris, trois autres pièces à l'Opéra Bastille, un à l'Opéra d'Ho Chi Minh Ville, Martine Argeliès est un facteur de clavecins reconnu dans le monde de la lutherie depuis 1981. C'est un métier passionnant et très varié, dit-elle. Ça me plaît de passer d'un tas de planches au départ à un instrument prêt à l'emploi à l'arrivée. Soucieuse de partager son savoir-faire, elle prête régulièrement quelques-uns de ses clavecins pour des concerts et des événements musicaux. Le 17 juillet prochain, dans le cadre du Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon, Christina Pouard utilisera par exemple l'un des instruments fabriqués par Martine Argeliès lors de la représentation de son ensemble, l'Arpeggiata, à l'Opéra Comédie. Clavecin Martine Argeliès, 11 bis rue des Soldats à Montpellier. Le téléphone 04 67 06 05 69. 04 67 06 05 69.
Et le saviez-vous, en novembre dernier, Yann Poulain et Nicolas Gilles, de luthiers montpelliérains, ont été primés au dernier concours de lutherie organisé par la prestigieuse VSA, la Violin Society of America.
Artisanat d'art, l'agglomération, une terre de création. Trait d'union entre le passé et l'avenir, les métiers d'art sont des savoir-faire ancestraux qui se perpétuent depuis des siècles. Ces artisans créateurs implantés dans l'agglomération se regroupent et s'associent pour diffuser leurs œuvres au plus grand nombre.
Potiers, sculpteurs, verriers, joailliers, créateurs de vêtements ou peintres ont tous un point commun. Ils travaillent une matière première. Que ce soit l'argile, le verre, le fer ou le tissu, ils partent d'un matériau brut pour créer une pièce unique et de qualité en y apportant leur touche de créativité. Un véritable vivier de fabricants et de créateurs issus de plus de 200 métiers différents. Pour Brigitte Chapelier, céramiste à Montpellier et secrétaire de l'Association des céramistes du Languedoc-Roussillon, je recherche, dit-elle, le beau dans le quotidien en alliant l'esthétique à la fonctionnalité dans chacune de mes créations. Certains de ses talents sont reconnus. Sabine Philippe, mosaïste installée à Lattes, a par exemple remporté l'édition 2012 du concours Atelier d'art de France pour le Languedoc-Roussillon. Il récompense l'excellence d'un professionnel des métiers d'art. Mais ce n'est pas le cas de tous les artisans. Beaucoup d'entre eux doivent trouver des alternatives pour faire connaître leur savoir-faire.
Des lieux dédiés à la promotion, notre objectif est de répondre aux besoins et aux difficultés rencontrées par les créateurs pour se faire connaître et diffuser leurs œuvres sans moyens ni réseau, explique Gaëtan Lepage, coordinateur d'Ars Fabrique, qui a lancé la vitrine des créateurs, un guide en ligne sur les activités de création. Cette association met également en place des galeries éphémères afin de faire découvrir des créations made in Montpellier. De son côté, les ateliers Saint-Roch, composés de 17 artisans d'art de domaines différents, encouragent les habitants et les touristes à faire un détour par les ateliers de fabrication de ses membres situés dans le quartier Saint-Roch. Les galeries d'art privé mettent aussi en lumière des artistes reconnus et de nouveaux créateurs très prometteurs. Parmi elles, la galerie Hélène Trintignant, la plus ancienne installée à Montpellier, qui expose les œuvres d'artistes issus du mouvement support-surface à la base de l'art contemporain français, tels que Vincent Bioulès, Claude Vialat et Daniel Dezeuse. La galerie Jean-Claude Reynaud, qui existe depuis 1984, est spécialisée dans la peinture figurative et coloriste et propose notamment les tableaux du peintre montpelliérain Gérard Calvet. Notre rôle est fondamental, affirme Jean-Claude Reynaud, gérant de la galerie. En dehors des galeries d'art, les artistes ont peu de possibilités d'exister. Aujourd'hui, nous ne sommes pas assez nombreux par rapport à la richesse des artistes présents sur le territoire.
Et pour remédier en partie à ce constat, Atelier d'Art de France, qui fédère près de 6000 artisans au plan national, prévoit d'ouvrir en mars prochain une maison des ateliers d'art à Montpellier. Un lieu dédié à la découverte et à la diffusion des œuvres uniques produites par les artisans. Nous répondrons non seulement à une demande des créateurs locaux, mais aussi à celle du public montpelliérain. Il est à la recherche d'un lieu permanent dans lequel il pourra venir à la rencontre des artisans d'art, précise Sonia Rios, responsable promotion à Atelier d'Art de France. De nombreuses initiatives locales qui sont autant d'occasions pour ces professionnels de partager leur savoir-faire avec le grand public.
Une galerie éphémère à Sainte-Anne, du 13 au 17 novembre, Ars Fabric ouvre une galerie éphémère pour faire découvrir au grand public des objets fabriqués par une dizaine d'artisans d'art locaux. Ce sera 41 rue de la Valfère à Montpellier. Téléphone portable 06 16 56 48 91. 06 16 56 48 91.
Venez aussi découvrir la faïence du Vieux Montpellier. Rendez-vous au département des arts décoratifs du musée Fabre de Montpellier Agglomération. Au cœur de l'hôtel Cabrières-Sabatier d'Espéran, vous pourrez retracer l'histoire de la faïence du XVIe au XIXe siècle et admirer des pièces uniques provenant notamment des fabriques Favier et Olivier installées à Montpellier au XVIIe siècle. Département des arts décoratifs du musée Fabre, rue Montpelliéré à Montpellier. Téléphone 04 67 14 83 00, 04 67 14 83 00. Trois questions à François Siffre, faïencier. François Siffre est aujourd'hui le seul à fabriquer de manière artisanale la faïence du Vieux Montpellier. Le 19 juillet prochain, plusieurs de ses créations seront exposées au musée Henri Prade de Montpellier Agglomération à Latz, à l'occasion d'une soirée culturelle et gourmande. François Siffre, d'où vous vient cette passion pour la faïence du Vieux Montpellier ?
C'est d'abord mon grand-père, Paul Artus, en 1947, qui a été le premier à faire revivre cette tradition. Puis mon père et mon oncle ont suivi. On peut dire que je suis littéralement tombé dedans dès mon enfance et je n'en suis plus jamais sorti. Je travaille entièrement à la main, dans le plus grand respect des techniques et des modèles des faïenciers d'autrefois. Cela requiert une très grande précision et une attention de tous les instants. Je n'ai recours à aucune technique industrielle.
Et quelles sont les particularités de la faïence du Vieux Montpellier ?
On la reconnaît facilement grâce à sa décoration florale bleue sur un fond blanc ou jaune. Cette faïence était réputée dans la France entière pour sa qualité et sa beauté. Elle a contribué à la prospérité de Montpellier pendant près de 4 siècles.
Plus d'infos sur les artisans qui font vivre le territoire sur le site www.montpellier-aglo.com.